Avant de trouver ma place dans l'engagement avec mes différents projets, une question m'obstinait. Comment faire de mon métier un vecteur de transition sociétale? Comment avoir un impact et faire ma part au quotidien? Si vous écoutez Nouvel Oeil, vous vous posez certainement aussi ces questions-là. Et si j'ai choisi la Green Management School pour soutenir mon podcast, c'est parce que ça peut réellement vous aider à vous y retrouver. Se former au métier de la transition écologique, ce n'était pas si accessible il y a quelques années, mais ça l'est aujourd'hui. Ça l'est tellement que l'on ne sait plus qui croire, quelle formation entreprendre, ni ce que ça vaut. Alors j'ai fait les recherches pour vous, et j'ai trouvé l'école que j'aurais tant aimé faire il y a quelques années, quand j'étais paumée. Des cours approfondis sur le climat, la biodiversité, l'agronomie, la géopolitique, mais aussi sur les modèles économiques vertueux. Le tout dispensé par des spécialistes et des personnalités inspirantes. Créer un autre lendemain que celui qui s'annonce, c'est leur mantra. Et derrière cette idée, la mission de Green Management School est de former de nouveaux managers capables de transformer les entreprises et les organisations de l'intérieur. Toutes les informations sont en description. Merci à Green Management School de croire en Nouvel Oeil en soutenant cette saison de podcast. Tout de suite, place à un nouvel épisode. Hello, je suis Victoria et j'ai 24 ans. Chaque semaine, j'embarque mon micro jeune et je pars à la rencontre de personnes inspirantes pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies, dans un monde où l'on se cherche et où on questionne notre avenir. J'espère qu'écouter le parcours et les conseils de ces personnes qui ont rêvé et osé faire de leur rêve une réalité t'aidera toi aussi à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Alors je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle. Pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es, pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser.
Au début, en fait, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, tu te dis, tiens, c'est la faute de... Donc c'est la faute de mon boulot, c'est la faute de mon conjoint, c'est la faute de la vie, la société, le gouvernement. Et puis c'est grâce à la répétition de schémas que j'ai fini par me dire, ok, si en fait tu vis ça ici, puis que tu le revis là-bas, puis que tu le revis là-bas, en fait c'est toi la source.
La plupart du temps, on ne se connaît pas, on se définit. On cherche à montrer au monde qu'on est du bon côté. On n'observe pas la réalité, mais notre réalité. Alors on distord le monde réel en construisant un point de vue sur des événements et des rencontres. Ce point de vue qui finit par faire de nous un personnage que l'on incarne, sans même avoir conscience que l'on enfile un costume. Alors on passe nos vies avec des costumes sur le dos, en distordant le réel. Frank Lopvé a incarné plusieurs personnages et endossé de nombreux costumes, avant un événement radical qui l'a conduit vers son autre vie. Je dois vous avouer que j'ai réécouté cet épisode 3 fois, tellement des clés s'y trouvent. Franck nous partage une trousse à outils pour avancer sur différents sujets constitutifs de nos vies, et j'ai été franchement déstabilisée par cette rencontre. Dans cet épisode avec lui, on parle d'amour, de con et d'interprétation. J'espère que cette écoute t'aidera à te libérer des costumes. Bonjour Franck Lopvé.
Bonjour Victoria.
Merci de m'accueillir dans ce précieux lieu en Ardèche qui est absolument magnifique.
Avec plaisir, bienvenue.
Franck, tu es penseur contemporain, auteur et conférencier, donc ça c'est les casquettes qu'on te met, mais tu es bien plus que ça.
Oui, ou bien moins.
Non, quand même. Tu aides des milliers de personnes à accéder à des parts d'eux-mêmes encore méconnues. Et je suis très heureuse d'avoir ce temps privilégié avec toi aujourd'hui pour aller justement creuser ces fameuses parts méconnues en chacun de nous. Tu dis être né dans une famille banale, d'une ville banale, dans un pays banal.
Ouais.
Alors, qu'est-ce que c'est d'avoir une enfance banale?
Ben, c'est surtout l'idée que de mon enfance, j'aurais pu tirer une enfance exceptionnelle, exceptionnellement douloureuse ou exceptionnellement agréable, selon les souvenirs que je sélectionne et comment je les mets les uns derrière les autres pour en faire une légende, j'aurais pu en tirer de quoi te faire pleurer ou de quoi te faire rêver. Et je choisis en fait de ne pas instrumentaliser mes souvenirs pour me fabriquer une légende spéciale. J'avais envie de dire que ça me faisait du bien en fait de ne pas chercher à être plus ou moins que le voisin. Donc banal, c'est le mot qui convient le mieux.
Mmh. Et tu as le souvenir d'avoir été un enfant ballotté dans ses premiers mois sur Terre. Et c'est avec ce souvenir que tu dis avoir fabriqué l'enfant fautif. C'est quoi l'enfant fautif?
L'enfant fautif, c'est l'enfant qui grandit avec l'impression un peu lointaine, un peu bizarre, une impression qui donne pas vraiment son nom, qu'il est sur un siège éjectable et que s'il déconne, il va repartir. Alors il ne sait pas où, il ne sait pas pourquoi, mais il vit avec cette sensation-là. J'ai cette espèce d'ambiance dans l'enfance où ça se passe bien, tout est cool, mais je vois qu'il y a une forme de gesticulation, une forme d'inquiétude, une forme de peur d'être démasqué qui confine à l'idée du siège éjectable.
Comme si tu ne pouvais pas être toi-même et t'afficher tel que tu étais vraiment.
En fait, il s'avère avec le recul que j'avais parfaitement le droit d'être moi-même, mais que je pensais que je devais fournir une version spéciale de moi-même pour être aimé. Mmh. Mais ça, c'était en fait mon invention. Je vivais avec des parents, comme je le dis, banals. Et les parents, en fait, dans leur banalité, ce que ça veut pour leurs enfants, c'est simplement qu'ils soient heureux. Et les enfants, eux, de leur côté, vont avoir tendance à se sentir oppressés, challengés, poussés à devenir des grands hommes ou des grandes femmes, alors qu'en fait, le désir vient d'eux, la plupart du temps. Mmh. Donc, si tu veux, aujourd'hui, j'ai identifié que c'est pas mes parents qui mettaient la pression pour avoir un enfant spécial.
C'était toi-même.
C'est moi, en fait, qui voulais absolument fournir à mes parents un enfant spécial pour que la gloire leur retombe dessus. Tu vois, j'avais envie, en fait, qu'ils soient fiers d'eux-mêmes. Donc, leur fournir un fils exceptionnel, c'était une bonne piste, quoi.
Et tu vas même plus loin en disant que tu vivais ta présence sur Terre comme un mauvais rêve dont tu allais forcément te réveiller. Tu dis de cette période, avec le recul, je crois avoir suivi le mouvement, agi ou réagi au fur et à mesure aux événements qui se présentaient. Au point qu'à un moment, j'ai eu le sentiment d'une vie trop petite jusqu'à me demander si elle était bien la mienne. C'est quand même fort comme mot.
En fait, c'est assez répandu dans l'enfance. Moi, disons que je suis un enfant qu'on pourrait qualifier de lunaire. Donc voilà, un peu planant, un peu perché, qui a facile à parler aux arbres, tu vois. Bon, après, chez un gamin, c'est à peu près en place, ça. Hein.
Très connecté à la nature.
Ouais, voilà. Un gamin qui grandit dans les Vosges et qui passe son temps à aller marcher dans les champs. Hein, donc, c'est même pas un désir d'être connecté. Tu l'es parce qu'il y a que ça. Hein. Et finalement, oui, il y a eu des moments où la réussite, la compétition, l'idée de réussir, l'idée de vaincre, l'idée des bonnes notes, d'être une bonne personne, etc., était vécue comme une telle pression qu'il y a des moments où tu te dis, mais en fait, c'est quoi le délire? Qu'est-ce que je fous exactement là? Vous êtes sûr là de votre projet? En fait, c'est quoi? On doit choper des bonnes notes, puis du pognon, puis après attendre notre chimio. C'est vraiment ça votre projet?
À quel âge tu commences à remettre ça en question?
Moi, je pense que c'est des questionnements de préado qui commencent de se poser des questions sur le sens de la vie. Donc, et après, si tu laisses ce sentiment grandir, oui, ça peut aboutir en fin d'adolescence à un espèce de truc de comment on se barre d'ici, quoi. C'est quoi votre truc de malade là? C'est comment on se barre d'ici? Et c'est voilà, c'est un peu le cursus que ça oui. a pris. Alors après, attention, pour moi, c'est pas du tout vécu comme un truc douloureux d'un gamin dépressif qui se traîne d'école en école et d'échec en échec. C'est plutôt mon monde intérieur. Donc à l'extérieur, le gamin semble aller tout à fait bien, à peu près normal. J'ai envie de redire banal, mais à l'intérieur de moi, il y a quand même une forme d'agitation, de questionnement. Donc ça fait un gars qui observe beaucoup en se demandant, mais en fait, c'est quoi exactement le délire? Qu'est-ce qui fait qu'ils semblent tous aussi motivés? Tu vois, un truc comme
donc
ça.
Donc à cet âge-là, tu ne tais pas ces questions-là? Tu oses les affronter déjà?
Non, elles sont pas tues, mais elles sont à l'intérieur de moi.
Et qu'est-ce que tu en fais?
Voilà.
Pourquoi tu les transformes en quelque chose de bien plus tard pour toi?
Ça prend différentes pistes. En fait, ça prend la piste naturelle en jeune adulte autour de 18 ans et compagnie. Ça prend la piste de l'émancipation. Mm-hmm. Comment je fais en fait pour ne dépendre de personne et vivre ma vie? Ce qui aboutit chez moi à une course au pognon. Puisque l'idée, c'était comment je peux me loger, comment je peux manger sans rien demander à personne. Et puis là, bah, de fil en aiguille, tu te retrouves pris dans un mouvement qui n'est plus désiré, qui est simplement le mouvement de la vie, de quand il faut aller bosser, quand il faut, etc., etc. Donc je vis ces trucs-là. Évidemment, comme je suis un jeune adulte qui joue à être un adulte, comme je suis un jeune adulte qui joue à être un papa, ben je me retrouve très vite en couple. Et puis de ces couples naissent des ruptures. Et à chaque rupture, il y a une remise en cause. Est-ce que en fait, donc du coup, ce boulot, est-ce qu'il est si utile que ça? Donc tu laisses tomber ton boulot, tu laisses tomber ton appart, en même temps que l'histoire d'amour s'arrête. Et puis tu recommences une autre histoire.
Donc malgré le fait que très jeune tu aies eu ces questionnements-là assez profonds, tu as quand même endossé tous les costumes qu'on nous pousse à endosser.
C'est ça. C'est-à-dire que j'ai laissé ces questions en suspens, puis je me suis dit bon bah écoute, va vivre la vie, tu verras bien quoi. J'avais tendance à répéter les schémas parce que si tu veux. Au début, en fait, quand il y a quelque chose qui va pas dans ta vie, tu te dis bah tiens, c'est la faute de. Donc c'est la faute de mon boulot, c'est la faute de mon conjoint, c'est la faute de la vie, la société, le gouvernement. Tu remplis la case en blanc, tu fais ce que tu veux avec. Mais donc j'identifiais qu'il y avait un problème à l'extérieur. Et puis c'est grâce à la répétition de schémas tout à fait identifiables que j'ai fini par me dire ok, si en fait tu vis ça ici, puis que tu le revis là-bas, puis que tu le revis là-bas,
c'est qu'il y a une raison.
En fait, c'est toi la source. Donc, si la source c'est toi, bah, maintenant il va falloir plonger à l'intérieur. Et là, donc, il y a une autre démarche qui s'est enclenchée, qui est d'aller chercher dedans. Qu'est-ce que je fabriquais pour me fabriquer toujours la même vie ? C'est-à-dire, je change de décor, je change les personnages, mais la sensation est la même. Et ça, c'est super désagréable parce que c'est ça qui donne la sensation de d'être un hamster dans une roue, tu vois. Parce que si encore, quand tu changeais le décor ou les personnages, il arrivait d'autres événements.
Oui.
Mais non, en fait, tu te retrouves coincé dans les mêmes sentiments.
Oui, tu dis que la réalité n'est pas extérieure, mais intérieure. Et que le jour où tu as compris ça, tu as récupéré ton pouvoir.
Alors, il faut le clarifier. La réalité existe. La réalité est extérieure. La réalité, le monde existe. Mais moi, ce que je vais percevoir du monde va devenir ma réalité.
Ton interprétation, finalement.
C'est ça. Je pense que nous sommes des interprètes du monde et qu'on a constamment tendance à confondre notre interprétation du monde avec la réalité qu'on appelle même la dure réalité. Et cette confusion entre la grande réalité et mon interprétation de cette grande réalité pour fabriquer ma petite réalité, cette confusion est à la source de beaucoup, beaucoup de douleurs. Parce qu'on croit en fait qu'on est face à un monde fini, donc on n'a pas la main. Soit je me plie, soit j'obéis. Soit je me mets au défi, mais donc en marge, enfin les solutions sont raccourcies. Quand je comprends en fait que le monde extérieur n'existe pas pour moi, c'est-à-dire que je suis juste sur mon interprétation du monde, je comprends que si je change mon interprétation, je change de monde. Et là, j'ai récupéré de l'air.
Comment on la change, cette interprétation ?
Y a plusieurs trucs à capter, mais le premier truc à comprendre, c'est que ce qui nous emmène dans une vision particulière du monde, c'est notre monde émotionnel. C'est-à-dire que les émotions qui sont en moi vécues à un certain niveau de l'enfance et qui restent stagnantes, bloquées, comme qui dirait en attente de résolution, elles finissent par filtrer le monde à ma place. Pour te donner des exemples super concrets, si par exemple, quand t'es gamin, t'as l'impression que tu n'as pas le droit d'être là, qu'on ne respecte pas ton territoire, qu'on ne te soutient pas, qu'on ne t'écoute pas, qu'on ne te valorise pas, l'émotion, là, va s'inscrire sur les lunettes à travers lesquelles tu regardes la vie, et tu vas filtrer la grande réalité pour fabriquer une réalité, une fois adulte, où tu continues d'avoir les sensations d'une vie rétrécie, où tu sens que tu n'as pas le choix, que t'es pas respecté, pas entendu, pas soutenu, etc. Une autre personne qui aura le sentiment dans l'enfance qu'on l'abandonne retrouvera ces mêmes sensations une fois adulte. Un enfant qui pense qu'il est tout puissant et qu'il a tous les droits continuera de regarder le monde avec le même regard une fois adulte.
Donc en fait, ce que l'on pense peut devenir vrai dans notre système après, dans notre interprétation du monde.
Alors, ce que l'on pense, ça aussi, ça, c'est sujet à caution. C'est-à-dire que je suis convaincu que ces enfants, ce que nous vivons et les émotions qui s'entassent, font qu'on développe une certaine qualité d'être, une certaine disponibilité au monde. Et que cette qualité d'être, en fait, elle va fonder la plupart de nos relations et comment les gens vont communiquer avec nous, comment on va interagir avec les gens. Si, par exemple, tu grandis dans un monde qui te demande de créer un système de défense hyper pointu parce que tu te sens tout le temps hyper agressé, une fois dans le monde adulte, même si les bourreaux sont partis et qu'il n'y a plus de raison de te défendre, l'agressivité qui va être contenue dans ton système va généré dans plein d'échanges de la vie courante de l'agression, tout bêtement.
Et ça va même plus loin dans les schémas, finalement, dont tu parlais tout à l'heure, qu'on répète dans notre vie si on n'apprend pas à les comprendre et qu'on remet toujours la faute sur l'extérieur, et notamment via nos relations. Toi, tu parles beaucoup des relations amoureuses et du fait qu'on se met tout le temps dans les mêmes situations. Au sujet du couple, tu dis « je voudrais que les gens puissent ressentir ce qu'est être à deux ». C'est quoi d'être à deux ?
C'est quand l'autre n'est plus vécu comme une menace. C'est quand on arrête en fait de chercher si l'autre est une bonne ou une mauvaise personne. C'est quand on comprend en fait qu'il n'y a pas des bonnes et des mauvaises personnes, il y a des êtres humains, et que dans un humain, il y a une potentialité immense du pire au meilleur. Évidemment, pour qu'on comprenne ce que je viens de dire, il faut mettre de côté les pathologies, c'est-à-dire les malades mentaux qui vont avoir des attitudes liées à leur pathologie, donc la pédophilie, etc., etc.
Oui.
Donc je mets ça de côté. La maladie existe et tomber sur des malades, ça peut exister. Mais dans l'immense majorité des cas, on tombe sur un humain qui n'est ni une bonne ni une mauvaise personne. Elle est les deux à la fois, et les deux peuvent surgir tour à tour. Donc, pour moi, être à deux, c'est arrêter de chercher si l'autre est une suffisamment bonne personne pour mériter mon amour.
Okay.
C'est arrêter, en fait, de chercher si l'autre tourne rond ou pas rond, s'il est une bonne ou une mauvaise personne. C'est une façon de dire, je sais qu'en toi, il y a du plus et du moins, et c'est simplement la marque de ton humanité, et j'ai aucune intention de te traquer. Je sais ce que c'est que de vivre dans un couple où on se sent sur la sellette, dans le sentiment d'être traqué. Et être à deux, c'est arrêter de traiter l'autre en ennemi potentiel.
Tu dis, ce que je vais rencontrer en l'autre, c'est ce que j'ai besoin de connaître en moi.
Oui. Alors, attention, c'est un peu perché.
C'est toi qui l'as dit. Hein.
Oui, oui, je l'ai...
mais soyons perchés.
Je l'ai dit, mais c'est vrai qu'il y a un contexte, il y a un avant et un après. C'est vrai que je dis ça dans un livre et il y a un contexte, mais... L'idée est assez simple, en fait, si on reprend l'idée de la perception du monde.
Oui.
Ça signifie que si, bon, allez, je prends un exemple. Imaginons que tu regardes, un collègue de travail. Tu dis, moi, je regarde mon collègue. De là où je le regarde, je le vois comme ça. Mais en fait, lorsque c'est sa mère qui le regarde, elle le voit comme ça. Quand c'est sa petite amie ou son petit ami qui le regarde, il est vu comme ça. Lorsque c'est son patron qui le regarde, il est vu comme ça. Lorsque c'est son enfant qui le regarde, il est vu comme ça. Donc en fait, cette personne, quand moi je l'aperçois, je n'en perçois pas tous les contours. Cette personne, je la rencontre pas réellement. Ce que je rencontre de cette personne, c'est la perception que j'ai de cette personne. Et quand tu comprends ça, tu comprends que quand on regarde le monde, on croit regarder le monde, alors qu'on regarde notre façon de filtrer le monde. Donc ça marche pareil avec les autres. Quand vous regardez quelqu'un, vous déposez quand même également chez lui vos propres filtres, vos propres traumas, vos propres... stimuli, quoi.
Pour revenir brièvement sur ton parcours, tu as quand même fait des études d'histoire de l'art, puis après tu as travaillé dans des marchés pendant plus de 20 ans.
Je me suis inscrit en fac d'histoire de l'art, mais j'ai passé mon temps à courir après les meufs, la glande, jouer au baby-foot et fumer des joints. Hein. Ça a été ça. Donc je me suis inscrit en fac d'histoire de l'art et je n'y ai pas réellement mis les pieds. Et ensuite, comme je suis doué pour la rhétorique et l'humain, devenir vendeur est devenu naturel. Donc après, voilà, j'ai vendu tout ce qui pouvait se vendre à tout le monde.
Hein. Et tu vendais tout. J'ai eu une petite anecdote d'une interview que j'ai écoutée de toi où en fait, comme tu arrivais à cerner les gens, tu leur disais le bon mot au bon moment, au bon endroit, qui faisait qu'ils finissaient par acheter. Et donc à chaque fois, tu écoulais tous tes stocks et ça étonnait tout le monde.
Oui, bah oui, j'étais un vendeur très doué, mais en fait, tous les vendeurs très doués sont très doués pour l'humain. Ils sont simplement capables de sentir qui est en face, quelle est l'attente, etc. Alors après, si tu veux, c'est le versant maléfique de la perception. C'est un des versants les moins sympas de la manipulation, si tu veux. Mais je reste un manipulateur né. J'ai vraiment ça en moi et je travaille avec ça. Seulement aujourd'hui, c'est au service d'un truc parfaitement clair où je peux en parler avec honnêteté, en regardant le truc et en utilisant cette capacité
extrasensorielle même.
Sensorielle, parce que en fait c'est une capacité que tout le monde a. Je veux dire, quand on croise quelqu'un, on a un avis sur lui, et moi simplement j'ai affiné ça, je fais ça depuis des années, et je le fais au service de la compréhension de l'autre. Donc je n'en tire rien d'autre, et c'est là que la manipulation et le pouvoir rhétorique deviennent quelque chose de d'utilisable d'une manière parfaitement correcte.
Et finalement, même en faisant ces marchés-là et en étant dans ton élément, tu étais tellement dans cette inconsciente tentative de fuite que ton corps a suivi. Et un matin de mai, tu t'es écroulé devant tes enfants en faisant un AVC. Quelle était finalement cette inconsciente tentative de fuite?
J'étais simplement collé au plafond, perché, dans une spiritualité où je pensais que j'avais la conscience ouverte, que j'avais une longueur d'avance sur les autres, que je savais mieux que les autres, je pouvais simplement attendre que le reste du monde ouvre sa conscience pour me rejoindre sur le nuage de bienfaisance dans lequel je naviguais. Enfin, en gros, j'étais un con.
L'ego avait pris le dessus.
Allez, on peut le balancer comme ça si on veut, mais j'aime pas trop juste le mot parce que l'ego n'est pas notre ennemi.
Oui.
Et il a certaines fonctions, mais c'est même pas l'ego qui a pris le dessus, c'est simplement que j'étais un con. C'est aussi simple que ça, on en rencontre des cons. Hein, simplement des gens qui pensent avoir mieux compris que les autres et que si tout le monde pensait comme eux, la Terre irait mieux. Hein, c'est pas ça qui manque. Donc j'étais simplement un con. Seulement moi j'étais une forme de con un peu spéciale, c'est que j'étais un con tout à fait perché. Donc je passais mon temps dans les nuages à essayer de discuter avec des formes invisibles pour recevoir des informations qui me donneraient une longueur d'avance, tout en étant en bas, chef d'entreprise, à élever des gamins. Donc j'étais tout à fait étiré, si tu veux, d'une manière littérale, j'étais étiré. Et une veine dans la moelle épinière fait exactement la même chose, elle s'est étirée, elle a rompu, et j'ai vécu un AVC. Donc voilà, ça a été une expérience assez intense parce que ça te rappelle à ta mortalité. Moi, j'avais juste 40 ans. Mais intense aussi parce qu'elle te dit « Bon, alors, tu veux vraiment te barrer d'ici ou quoi ?» Et là, j'ai ressenti à quel point j'avais aucune intention de mourir et que c'était plutôt une posture bravage de celui qui joue à dire « Oh, ce monde est trop nul pour moi. Moi, en fait, je voudrais vivre ailleurs. » En fait, c'était une fois de plus de l'orgueil mal placé.
Et un peu de prétention.
Bah, grave, ouais.
Dans ton dernier livre publié chez Erol, Ton autre vie, tu retraces justement le chemin qui t'a mené à ton autre vie. Comment on fait la paix avec soi-même pour arriver dans cette fameuse autre vie ?
Alors si tu veux, c'est pas la paix avec toi qui t'emmène dans une autre vie. C'est l'idée que si je suis dans une interprétation du monde, parce ouais. que en fait je suis toujours en train de le percevoir et que je n'entre en relation avec le monde que par le biais de mes sens, je comprends en fait que la vision que j'ai et la lecture du monde, j'en ai une, mais je pourrais en avoir plusieurs. Et mon autre vie, en fait, c'est l'idée qu'il y a quelque chose qui m'empêche de décaler mon regard pour prendre le monde autrement que comme j'ai l'habitude de le prendre.
Qu'est-ce qui t'empêchait, toi ?
Et en fait, ce qui empêche moi et le reste du monde, Victoria, de changer d'angle de vue, c'est le ressort émotionnel surtendu. C'est-à-dire tous ces paquets d'émotions qui ne sont pas vécues et qui nous emmènent dans une lecture unilatérale du monde. Et cette lecture unilatérale, ben, nous emmène dans une vie qui est toujours plus ou moins la même et dans une lecture qui est toujours la même. Donc, on croit et on finit par valider notre monde. Tu sais, à l'instar d'un algorithme de réseau social qui te fournit ton mode de pensée en boucle, et ben, exactement de la même manière, tu vas continuer de valider ton monde en le percevant toujours depuis le même angle. Ton autre vie, en fait, cette capacité qu'on pourrait d'avoir de sélectionner d'autres morceaux de réalité pour en fabriquer sa petite réalité, nous demande tout simplement d'accepter d'être touché par ce qui nous touche, de vivre notre monde émotionnel. Donc pour moi, la démarche, elle a été assez simple. Il ne s'agit pas de faire la paix avec moi, il s'agit d'accepter d'être touché par les émotions qui me touchent dans la vie. Jusqu'alors, je pratiquais le sport qui est pratiqué par la plupart des gens, c'est que quand je suis touché par quelque chose, je désigne quelqu'un comme coupable de ce qui m'arrive et ça stoppe le flux émotionnel. Donc le bénéfice, c'est que je ne suis pas dans l'émotion, donc j'ai l'impression d'être un adulte parce que je suis stable, je suis cohérent, je suis congruent, je suis solide dans mes pompes.
C'est une forme de protection.
C'est une forme de protection, comme si en fait les émotions étaient mortelles. Vraiment se protéger contre ça, aujourd'hui pour moi c'est un non-sens, mais en plus ça me permet de désigner celui qui a déclenché l'émotion chez moi comme coupable, donc du coup lui devient le mal, moi je deviens le bien, moi je suis victime, donc lui il est le bourreau, et à cet endroit-là la plupart des gens s'arrêtent. Donc d'un seul coup, quelqu'un déclenche une émotion chez toi, il y a juste à le désigner comme coupable d'avoir désigné cette émotion, d'avoir déclenché cette émotion, lui il devient le mal, toi tu deviens le bien, et tu peux continuer ta petite vie. Le dommage collatéral de tout ça, c'est que du coup, t'es enfermé dans une vie où tu ne finiras que par percevoir ça partout et tout le temps. Et regarde, je le sais, puisque tu interviews des tas de gens, tu vas tomber par exemple sur une personne qui va te parler du bien-être animal. Mmh. C'est quelqu'un qui aura vécu à un moment donné dans son enfance quelque chose de violent vis-à-vis de ça. qu'il aura retrouvé sur son chemin un peu plus loin, puis sur son chemin un peu plus loin, et qui tous les jours, lorsqu'il ouvre son fil TikTok, Facebook ou Insta, tombe sur des moutons égorgés à l'envers. C'est-à-dire que la vie, je veux dire au même titre que l'algorithme de tel ou tel réseau social, va lui fournir en boucle son système de croyances, durcissant ainsi sa croyance que le monde est rempli de tarés qui ne pensent que à abîmer les animaux, et tant qu'elle va désigner des coupables, sans vivre son moment émotionnel, elle ne pourra jamais décaler son regard pour voir une autre vie que celle qu'elle est en train d'observer. Cela dit, observer la vie qu'elle observe n'est ni bien ni mal. Et je suis heureux que certains soient en contact avec cette douleur quotidienne de manière à ce qu'ils puissent faire bouger les choses.
Oui.
Par contre, si eux se retrouvent enfermés dans une lecture du monde qui leur rend le monde invivable, alors là, je leur conseille de temps en temps lever le pied sur désigner les coupables.
Et accueillir ses émotions.
Accepter de ressentir ce que ça leur fait profondément, de pleurer comme un enfant de 6 ans devant son chien mort ou devant comme un enfant de 4 ans qui voit qu'on enlève le pyjama du lapin. Et lorsqu'il acceptera de ressentir ces trucs-là, peut-être qu'il aura le loisir d'aller sélectionner d'autres morceaux de réalité et de vivre dans une réalité où de temps en temps elle est occupée par ce sujet-là. Et c'est pas plus mal parce que ça fait quelqu'un qui au moins va s'occuper de ça et de temps en temps sera occupé par d'autres angles de vue et ne sera pas obnubilé par ça.
Mais alors comment on accepte ces émotions ? Est-ce que le simple fait de les nommer et de les accueillir, ça suffit ? Ou est-ce qu'il faut faire un travail plus de fond, de thérapie ?
Alors moi je suis globalement contre le développement personnel,
oui.
Contre toute technique de gestion d'émotions. Contre toute technique pour nommer l'émotion, etc.
Qui ça rejoint Fabrice Midal.
Pour moi, en fait, tout ça, c'est l'inverse de la nature humaine. Une émotion, en fait, on n'a pas besoin de savoir son nom. Déjà, on peut pas le connaître. Tu vois, quand toi, t'es triste, Victoria, et que moi, je suis triste, on peut tous les deux appeler ça la tristesse, mais est-ce qu'on est en train de vivre le sentiment ? Le même, on ne le saura jamais.
Mmh.
Je ne sais pas, en fait, ce que c'est qu'être triste vécu par toi.
Mmh.
Et tu ne peux pas savoir ce que c'est qu'être triste vécu par moi. Donc déjà, donner un nom aux émotions, c'est une fausse piste.
Oui.
Ensuite, vivre une émotion, ça n'a pas besoin d'être géré, ça n'a pas besoin d'être compris. C'est un truc qu'on fait depuis l'enfance.
On sait exactement. Traverser.
C'est accepter d'être touché par ce qui nous touche, en arrêtant en fait de jouer à si je vis une émotion, c'est que je suis fragile, et si je suis fragile, c'est que les autres vont me massacrer. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Si tu regardes bien autour de toi. Lorsque quelqu'un est dans sa vulnérabilité, dans sa pure fragilité, personne se jette de dessus pour lui jeter des cailloux. L'humain a plutôt tendance à tendre la main quand il sent de la véritable vulnérabilité. Lorsqu'elle n'est pas mise en scène pour obtenir des câlins, je parle de la véritable vulnérabilité, de la fragilité. Et puis une émotion, ça n'est pas baigner constamment dans un monde émotionnel et jamais s'en sortir.
Oui.
Hein, vivre une émotion, c'est quelques minutes où on se retrouve la morve au nez, les yeux pleins de larmes, d'être bouleversé par une image qu'on a croisée dans la rue. Hein. C'est pas la fin du monde. Hein.
Et alors, je vais poser une question peut-être un peu cash. Aujourd'hui, est-ce que tu as complètement réussi à te libérer de ce Franck con que tu décrivais ?
Non. Alors déjà, c'est pas assez cash pour moi.
Comment veux-tu que je le formule ?
Non, mais ça ne me dérange pas. Mais je veux dire, je suis pas susceptible,
ouais.
Et je ne suis pas sujet à mais comment peux-tu ? Tu déclenches une émotion chez moi, justement. Je m'en fous vraiment. Tu peux me parler dans une liberté totale. Et non, en fait, si tu veux, aujourd'hui, je suis conscient d'être un con, et je ne le saurai que dans 5 ans. C'est-à-dire que quand je vais me retourner dans 5 ans sur ce que je suis en train de te dire aujourd'hui, et si j'écoute ce podcast-là, dans 5 ans, je dirais, mon Dieu, mais quel con. Mais quelle condescendance. Mais quel trou du cul. Tu pourrais pas un peu fermer ta gueule. Je suis convaincu que je dirais ça dans 5 ans. Et ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, ça ne me dérange pas.
Parce que c'est ta réalité d'aujourd'hui.
Parce que je suis un con, comme un humain. Ni plus ni moins, tu vois, ça fait pas de moi un être spécial, tu vois. Ça fait juste de moi un gars qui le sait.
Et comment toi, personnellement, tu as ressenti ce petit cafouillage interne qui a pu se passer entre le moment où tu avais réalisé que tu étais un con et que tu as décidé de changer de vie et d'avancer sur ton chemin intérieur ?
Je n'ai pas pu, Victoria, j'ai pas pu changer de vie. Je vais t'expliquer le truc et c'est un des plus grands dommages. C'est déjà en fait
l'AVC t'a quand même poussé à changer de vie radicalement.
Eh oui, c'est ça. Mais en fait l'AVC, si tu veux, je l'ai pas demandé.
Oui.
Tu comprends. Et sans lui, j'y serais encore dans ce con. Parce que si tu veux, j'étais un con, mais pas. j'avais pas d'intention belliqueuse, moi. J'étais juste un con parce que j'étais enfermé dans ma vision de moi, à passer mon temps à me définir, à me dire moi je suis comme ça, je suis comme ci, je suis pas comme ci, je suis pas comme ça, tu vois. Et j'étais un con parce que j'étais enfermé dans une vision unilatérale de moi où je faisais tout bien et tout ce qui allait de mal, c'était les cons, tu vois. Et en fait, quand tu passes ton temps à dire que le monde fonctionne mal et que c'est tous des cons, bah au bout d'un moment, la lumière doit se faire, c'est toi en fait hein, qui perçois le monde. Donc quand tu vois des cons partout, au bout d'un moment, il est temps que la pièce tombe et que tu te rends compte que c'est toi le con. Mais si tu veux, j'avais une belle main. J'avais vraiment une belle main. J'étais un père de famille, j'avais 3 jolis enfants, une belle maison, une piscine, un métier où je rentrais de la thune, j'étais aimé par les copains, j'avais une belle main.
Toutes les étiquettes qu'on nous pousse à acquérir.
Qu'on nous pousse, je dois avouer en fait que mes parents étaient plus cool que moi. C'est-à-dire que mes parents avaient pas de demande aussi matérialiste. Ils étaient pas aussi cons que moi, mes parents, tu vois, en fait. Moi, j'étais vraiment plus con que mon père, en fait, avoir une piscine. Qu'est-ce qu'il en avait à foutre, lui? Mais alors, vraiment, ça lui passait au-dessus de la tête, mais loin, loin, loin. Et moi, non, tu vois. Donc, c'était même pas leurs injonctions ou leurs demandes. Et j'ai même pas envie, une fois de plus, de jouer à être la victime des injonctions de la société. Non, non, c'était mon désir. J'avais envie de me la péter. J'avais envie d'être l'homme de la situation. Donc, je jouais à ces trucs-là. Mais au bout d'un moment, si tu veux, j'avais tellement une belle main que je sentais bien que j'étais un con. Je voyais bien que j'étais enfermé dans un truc un peu... Ça ronronnait déjà. J'étais à la limite de l'ancien combattant. J'avais 40 balais, tu vois. Donc, au bout d'un moment, tu dis, bon, il y a un problème. Mais quand t'as une belle main comme ça, tu la couches pas. Tu peux pas renoncer à ça. Tu renonces à quoi? Tu renonces à ta baraque, à ta femme, à tes gosses, à ton entreprise. Tu renonces à quoi? Tu peux pas, en fait.
Non, c'est trop inconfortable.
Voilà, exactement. Tu étais coincé dans ton confort et tu ne sais pas comment arrêter ça. Alors, il y a une part de moi qui a, si tu veux, un peu pris la main et qui a dit, bah attends, moi j'ai une bonne idée, tu vas passer de 40 ans à 80 ans d'un coup, et là, t'inquiète pas que tu vas devoir...
Bam, AVC.
Voilà. Et effectivement, ça a bien fonctionné. Et attention, hein, parce que derrière, l'habitude de la connerie te demande de te dépêcher d'essayer de revenir comme avant. Hein. Il faut vraiment 2-3 encore petites claques derrière les oreilles pour dire, ok, ça va, je vais essayer de fonctionner autrement qu'en mode bourrin. Et puis, bah, j'essaye aujourd'hui, mais je te dis, je suis conscient que dans quelques années, j'aurai un regard tendre sur le con que je suis aujourd'hui. Ce sera tendre. Voilà, je ne m'en veux pas.
C'est une évolution sans fin, finalement.
Ah bah évidemment, si tu crois qu'à un moment tu vas arrêter, là, t'es déjà une conne.
Tu dis, une vie ne se réussit pas, elle ne s'échoue pas, elle se vit.
Ben voilà, voilà, oui, c'est ça. C'est ça que j'avais pas capté. C'est que en fait, il n'y a pas de dose de succès, de dose d'amour ou de dose d'argent suffisante pour te mettre à l'abri de la souffrance. Ça n'existe pas. À tout moment, en fait, tu peux recevoir une nouvelle qui t'annonce la mort de quelqu'un ou la maladie d'un autre ou etc. etc. Il n'y a pas d'endroit où se cacher. Et moi, je passais mon temps à essayer de me planquer de la vie. Il n'y a pas d'endroit où se cacher. Donc, au bout d'un moment, tu comprends que l'idée de réussir sa vie est un non-sens. Déjà, la vivre, c'est formidable. Et après, ce qui me dérangeait le plus dans l'idée de réussir une vie, c'est que si on est capable de dire de quelqu'un qu'il réussit sa vie, ça signifie qu'on est capable de dire d'autres qu'ils ont échoué leur vie. Mais tu vois, c'est faudrait se mettre où, sans déconner, faudrait qu'on se mette où pour regarder la vie de quelqu'un et dire toi ta vie elle est ratée. Sans déconner, on sait ce que c'est une vie à vivre. Je veux dire, ça fait peur. On a peur de pas être choisi. On a peur de décevoir. On a peur on a peur d'être malade. On a peur de mourir. On a peur de.
Comment on se libère de toutes ces peurs pour accueillir la vie?
Ben, en fait, si tu veux, on va pas se libérer de la peur. On va être obligé simplement d'accepter de vivre avec. Donc, ça veut dire que effectivement, en vivant la vie, ben, il se peut qu'on souffre. Oui. Mais, tu sais, moi, je rencontre des tas de gens et j'ai vu que ceux qui se mettaient à l'abri de la souffrance, bah à la fin, ça devenait ça leur souffrance, être à l'abri. Parce que du coup, en fait, par peur d'un chagrin d'amour, bah, ils se mettaient à l'abri des histoires d'amour. Par peur d'une banqueroute financière, ils se cantonnaient dans des tout petits rôles de petits fonctionnaires coincés et ils n'accédaient pas à leurs désirs, etc. Et si tu veux, à un moment donné, la peur prend la main et que tu veux pas accepter de vivre avec la peur nécessaire, bah t'es obligé de te mettre dans une grotte et d'attendre la mort.
Et pour justement ne pas mettre des plans et des A plus B plus C sur comment apprendre à vivre sa vie, j'ai le sentiment que c'est plutôt un état de disponibilité au monde.
Ouais.
Comment on peut la cultiver, cette philosophie, au quotidien?
Alors, si tu veux, attention, parce qu'il y a un piège, c'est que tu vois, si jamais je dis, faut pas tirer des plans et faut pas tout calculer, je vais me retrouver assis dans mon canapé avec un bedeau, à me dire bon bah
j'attends que ça tombe.
Voilà, tu vois, avec des trucs, avec des phrases à la con bien perchées, en mode si ça se fait, c'est qu'il fallait que ça se fasse, si ça se fait pas, c'est qu'il fallait pas ça se fasse. Ouais,
tu
d'accord.
N'aimes pas ces phrases?
Bah, ça veut rien dire. Si ça se fait pas, c'est que t'as pas bougé ton cul, puis si ça se fait, c'est que t'as bougé ton cul, parce que la vie elle veut rien pour toi. Tu peux attendre dans ton canapé, la vie c'est pas un être qui a des attentions, qui dit bon alors qu'est-ce qu'on fait pour Victoria, parce qu'elle est quand même vachement sympa, on lui envoie un mec cool. Tu vois, la vie elle s'en tape, la vie elle est d'accord avec l'énergie que tu portes, c'est tout. Donc l'idée c'est de passer sur un autre registre qui est je fais des plans, je désire de trucs, je calcule, je me dis tiens, ce serait cool que je fasse ça et j'y vais. Comme toi, t'as pris ton micro, tu t'es bougé le cul et t'y vas. Mais c'est d'être d'accord avec l'idée que mes plans vont échouer.
Oui.
Et là, c'est cool, tu vois. C'est quand j'ai le moteur, j'ai là, j'ai les désirs, mais je pars pas en vrille. C'est-à-dire que si mon désir n'arrive pas, eh ça va, c'est pas le drame. L'idée, en fait, c'est de désirer, de marcher vers mon désir. Mais s'il n'aboutit pas, ça n'est pas important, parce que en fait, l'intérêt, c'est de marcher, pas d'arriver. On s'en fout d'arriver. On n'est pas pressé de mourir.
Non, pas vraiment, non.
Donc, marcher, c'est ça. Quand on le ramène dans un couple, ça peut amener un truc qui est plutôt qu'en fait de se mettre l'un en face de l'autre et de voir en fait qui a le pouvoir, qui n'a pas le pouvoir, qui fait quoi, tu vois, et de faire un bras de fer avec celle que j'aime. L'idée, c'est plutôt, tiens, regarde, on se prend la main, on imagine un projet, on marche vers ce projet et on n'en a rien à cirer si ça aboutit ou pas. Parce que le véritable projet, c'était marcher en se tenant la main. Donc on s'invente un projet à la con juste pour le prétexte de se tenir la main en marchant, et après il arrive, formidable, il arrive pas, formidable, et ainsi de suite. Donc tu vois, l'idée c'est de pas confondre ce truc là, sinon on se retrouve stocké dans un canapé, bloqué.
Attendre que les choses arrivent.
Exactement.
Au sujet du couple, donc, qui est un de tes sujets de prédilection, j'ai envie qu'on axe peut-être plus sur la jeunesse. Pourquoi tu rigoles?
Bah je rigole parce qu'en fait c'est pas mon sujet de prédilection, réellement, c'est que
les humains... La vie t'a amené à creuser ce sujet, quand même.
C'est même pas ça. Si tu veux, c'est qu'il y a qu'un seul truc qui occupe les humains, c'est l'amour. Et donc, les gens qui sont branchés sur le succès, par exemple, qui aident les gens à devenir youtubeurs ou instagrammeurs ou machin, qu'est-ce qu'ils aident des gens à être aimés des autres. Les gens qui vont être sur la cause animale, etc., ils sont sur l'idée d'apprendre à aimer les animaux. Ceux qui vont être sur le couple sont sur apprendre à aimer l'autre. Ceux qui vont être sur l'éducation des enfants vont être sur apprendre à aimer les enfants.
Tout est rattaché à l'amour.
Bah, tout est rattaché à l'amour. Donc évidemment, quand moi je reçois des gens qui ont entre 20 balais et 60 balais et qui me parlent d'amour, bah ça tombe 9 fois sur 10 sur des histoires de couple.
Parce qu'on a besoin de reconnaissance aussi dans la nature humaine.
C'est en fait encore mieux que ça. Si tu veux, on pense pendant des années qu'on cherche à être aimé tel que nous sommes. Et tu verras un peu plus tard que le vrai désir, ce que tu souhaites le plus au monde, Victoria, c'est aimer. Ce que tu veux, en fait, c'est trouver un autre avec lequel tu vas pouvoir ouvrir les robinets en grand et avoir le droit d'aimer à fond.
C'est plus puissant d'aimer que d'être aimé?
En fait, c'est ce qu'on souhaite le plus. On l'a remarqué déjà par plein de trucs. On préfère offrir un cadeau qu'en recevoir un. Ça, tout le monde l'a déjà remarqué. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin. Au fond, en fait, ce qu'on souhaite quand on cherche si l'autre est une bonne personne ou pas, c'est pas est-ce que l'autre va m'aimer. C'est est-ce que l'autre est un réceptacle valable pour que j'envoie tout. Et c'est ça l'idée. Ce qu'on veut, en fait, c'est se retrouver dans un endroit, dans une situation où on peut tout envoyer. Pourquoi, en fait, à un moment donné, on a envie de faire des gosses? C'est parce qu'on dit mon gamin, lui il va pouvoir, je vais pouvoir envoyer toutes mes doses d'amour au taquet et ce sera légitime et lui il va recevoir. Au fond, oui, évidemment, de là où je regarde, on préfère largement aimer. C'est ça notre idée en dessous. Alors oui, t'avais des questions sur le couple.
une question particulière pour justement les jeunes. Il y a quand même une majorité d'auditeurs, auditrices de ce podcast qui est entre 20 et 35 ans, même s'il y en a de plus en plus, comme je te le disais tout à l'heure, qui ont 40 ans et plus.
Des vieillards.
Des vieillards, ah ouais, c'est fini après. 40 ans, on fait des AVC, on change de vie. et donc précisément à cet âge-là où on se cherche autour de 20 ans, on peut avoir tendance à tomber dans des relations par défaut, relations amoureuses j'entends, pour combler un vide à l'intérieur de nous. Au sujet donc des relations amoureuses, pour ces jeunes qui se cherchent, qu'est-ce que tu aimerais leur partager aujourd'hui?
Le premier truc qu'on a envie de rétablir, c'est le droit d'utiliser son corps, notamment pour les femmes. Mais en fait, j'ai envie de l'éclairer aussi pour les gars qui ont peur de ce qu'ils pourraient le faire ou pas faire. Et le premier truc, c'est arrêtez de vous prendre le chou avec les relations sérieuses ou pas sérieuses. C'est marrant les couples. Et je sais en fait qu'il y a un des trucs les plus marrants, c'est le flirt. Tu sais, les moments avant, les moments où on se tourne un peu autour, les moments où on se découvre, etc. Et c'est normal d'avoir envie de renouveler cette expérience, de renouveler les premiers instants, d'aller de couple en couple. Ça me paraît complètement normal, cool, c'est au bon endroit, et vas-y, et profite, et régale-toi, et arrête de penser que tu dois offrir une vie à chaque personne avec qui tu baises. Donc déjà, on relâche la pression à cet endroit-là. Ça, en général, vous savez le faire. Par contre, il y a un truc sur lequel, à mon sens, vous avez besoin d'infos, c'est l'idée que vous vous amusez, puis qu'à un certain moment, fin de la rigolade, il faut une relation sérieuse. Et alors là, c'est très bizarre, c'est vraiment, on part au bagne, quoi, tu vois.
Ça y est, t'as 30 ans, là, il faut te caser maintenant.
Ouais, c'est ça, c'est, tu t'es bien marré. Bon, bah, maintenant, allez hop, fin de la rigolade. Pop, hop, hop, il faut bâtir sa vie, il faut construire sa vie. Et vous êtes pas des maçons, hein. Il faut à un moment donné se relâcher là-dessus.
Bah, il y a aussi cette expression quand on quitte quelqu'un. Ah, mais elle a toujours pas reconstruit sa vie.
Ouais, on est vraiment sur les trucs comme ça. C'est de la maçonnerie, je te dis, c'est pas de l'amour.
C'est fou.
Et, bah, en fait, c'est pas fou. C'est parce que la sémantique là, elle nous parle de l'idée de construire des murs. C'est, on veut construire des digues entre nous et la souffrance. Et on pense qu'en fait, si on est super aimé, on mourra pas. C'est assez bizarre, hein, dans nos trucs. Mais bon, c'est des atavismes. On va pas les découdre aujourd'hui. Mais moi, je voudrais juste amener un éclairage. C'est que, mon couple aujourd'hui, il me dit à quel point je suis plus libre maintenant qu'avant. C'est-à-dire que j'avais tendance à penser que le couple, c'était pas un espace de marade, c'était un espace où il faut être sérieux, faut pas déconner, c'était plus des règles à observer, plutôt chiantes qu'autre chose. Et je comprends après comment les gens partent en vrille sur des questions de polyamour et tous ces trucs-là. Je dis bien de là où je regarde partir en vrille parce que c'est pas trop ma cam. Mais la liberté d'être sorti du marché du cul, et je le nomme exprès comme ça, c'est incroyable. Je suis aujourd'hui dans un truc où je suis libéré du besoin de plaire, du besoin d'être bankable sur ce marché-là, d'être, tu vois, je suis libéré de ça. J'ai plongé dans une histoire où je ne suis pas obligé de vérifier toutes les 5 minutes le pouvoir que je pourrais avoir sur les meufs qui sont autour, et je vis avec une femme qui passe pas son temps à jeter des grappins à droite à gauche pour vérifier qu'elle peut encore avoir du pouvoir sur les uns ou sur les autres. Je suis rentré dans une relation où j'ai touché ce que c'était que la liberté d'être à quelqu'un. La liberté d'appartenir, la liberté de se laisser dévorer, la liberté d'entrer dans une relation. Avant, je pensais que la liberté, c'était être comme une sorte de protecteur de soi qui passe son temps à faire en sorte que les autres n'entrent pas dans mon monde, ne me débordent pas, il fallait que je me sente respecté, que je me sente... Et aujourd'hui, j'ai compris en fait totalement l'inverse. Et je pense que c'est pas un truc qu'on doit comprendre à 20 ans. Je pense qu'à 20 ans, il est l'heure de plonger, de se régaler, de se fondre dans tout ça et de s'en foutre. Et à un moment donné, si vous avez envie d'aller plus loin dans la relation de couple, c'est l'idée de comprendre qu'on a aussi la liberté d'appartenir à quelqu'un, la liberté de plonger dans une relation, la liberté de s'en foutre de sa liberté. Et ça, c'est une autre liberté qui est bien plus grande. Ce qui permet de faire ça, c'est quand on arrête de penser qu'on est en sucre. Pourquoi je peux plonger dans une relation aujourd'hui? C'est parce que je peux plonger corps et âme dans le truc. Si l'autre me trahit, qu'est-ce que j'en ai à cirer? Il va se passer quoi? Je vais avoir un chagrin d'amour pendant 3 mois, pendant 6 mois, et après, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vais me remettre debout, je vais continuer de marcher, de manger, de regarder la vie.
Ça rejoint les fameuses peurs qu'on abordait tout à l'heure.
Exactement. Je vais pas, moi, vivre comme un rat terré dans un coin, à brailler autour de ma liberté, comme si j'avais 15 ans, toute ma vie. À un moment donné, en fait, je suis capable d'offrir ma liberté à un autre. Parce que, c'est pas entrer dans un camp de concentration. Faut pas confondre. Faut quand même pas confondre. Pendant que moi, je vais vivre là comme un rat dans la peur de vivre un chagrin d'amour, il y en a qui sont en train de vivre d'autres expériences qui... Tu comprends?
Oui.
Et je me sers de ce qui est vécu comme souffrance par certains humains pour rendre ces petites souffrances acceptables et pouvoir vivre en arrêtant de me protéger comme si j'étais un trésor, comme si j'étais tellement important qu'il faut que je laisse tout le monde à la porte et que je laisse personne entrer dans mon territoire.
Au-delà de l'amour, qu'est-ce qui rend libre?
Merci, je tombe enfin sur Victoria. Ouais, cette question, elle est vraiment purement du Victoria qui n'a plus peur de moi.
Pourquoi j'avais peur de toi avant?
Tu pourras le gommer si tu veux dans l'interview, mais okay. Ouais, c'est la première question qui sort vraiment de ta spontanéité comme ça et qui n'essaye pas de prendre soin de moi. Et j'aime bien sentir que tu ne prends plus soin de moi, ça signifie que tu n'as plus peur de moi.
Ah, ben bah, ça tombe mal, on finit l'interview, il reste qu'une question.
Eh ben franchement, c'est agréable à ressentir, tu vois.
Okay.
Quand tu sens que tu as le droit d'être toi en ma présence, moi je le vis comme être accepté par toi. Et évidemment, c'est important, tu vois. La liberté pour moi, c'est d'arrêter de se définir. Je m'explique, c'est que si je passe mon temps à dire je me suis fait tout seul parce que moi, tu vois, personne m'a aidé, je me suis débrouillé comme un grand et machin. En fait, je passe mon temps à rédiger une espèce de carte de visite pour ensuite passer mon temps en mode vieux con, hein, parce que mais attention, hein, y a les vieux cons de 25 ans, hein, de présenter au monde ma carte de visite pour dire t'as vu, moi je suis comme ça, moi je suis franc, hein, quand j'ai un truc à dire, nanani. Et en fait, quand tu passes ton temps à te définir, au bout d'un moment, en fait, t'es enfermé par ta carte de visite, et tu penses que le monde t'enferme alors que t'es enfermé par l'histoire de toi-même. Comment tu passes ton temps à dérouler éternellement ta petite légende et comment tu ronronnes dans l'histoire de toi que tu racontes et re-racontes et re-racontes. Et en fait, la liberté, c'est quand t'es capable de trahir ta légende, de trahir ta carte de visite, de enfin arrêter d'être cohérent, d'enfin accepter le paradoxe ambulant que tu es. Et là, en fait, tu retrouves un espace de liberté parce que d'un seul coup, tu comprends que t'es fiable et pas fiable, que t'es bienveillant et capable d'une totale malveillance, etc., etc. Et là, purée, il y a de l'espace, il y a de l'air qui se remet en place, quoi.
Merci.
Avec plaisir.
J'ai une dernière petite question pour toi, Franck. Quel conseil tu aimerais partager aux jeunes qui nous écoutent?
Celui que je donne à mon fils qui a 19 ans, donc j'espère qu'il est dans la tranche d'âge de ceux qui t'écoutent.
Oui. Mais il y en a.
Je me suis demandé un jour, je me suis dit si tu mourais demain, tu sais que c'est un sujet pour moi. Qu'est-ce que tu dirais à ton fils qui te paraît important? Et donc je vais utiliser ça pour répondre à ta question. Et après mûre réflexion, je dirais à mon fils trompe-toi et trompe-toi encore.
Très beau conseil.
Je lui dirais ça parce que tu as la sensation de te tromper. Tu peux croire que tu es en train de te tromper et tu verras toujours plus tard avec le recul que heureusement que tu t'étais trompé au moment-là. Et c'est toujours avec le recul que tu vois à quel point c'était judicieux. Et derrière ce truc de trompe-toi et trompe-toi encore, fiston, il y a l'idée de arrête de penser qu'il y a possibilité de savoir où tu mets les pieds et de vouloir faire chaque pas en étant assuré qu'il va amener à l'endroit où tu pensais qu'il est. Ça ne marche pas, ça.
Mieux vaut pas savoir.
C'est ça. Tu sais, il y a un vieux film de boomer qui s'appelle Indiana Jones. À un moment donné, le gars se retrouve devant une falaise et il doit la traverser. L'idée est simple, il doit mettre un pas dans le vide et au moment où il met un pas dans le vide, il y a une pierre qui apparaît sous son pied. Et au deuxième pas qu'il fait dans le vide, il y a encore une pierre qui apparaît. Et au fur et à mesure qu'il marche, il crée le pont qui va au-dessus du vide. C'est cette image-là. Fais cette erreur de mettre le pied dans le vide et tu t'apercevras en fait que c'était peut-être pas une erreur. Par contre, essaye de ne jamais faire d'erreur dans ta vie. Et ce sera ça l'erreur.
Eh bien, écoute, on va terminer là-dessus. C'est une merveilleuse phrase. Merci beaucoup, Franck, pour
merci
tous tes partages.
Merci à toi, Victoria. C'était cool.
Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvel Œil. Sur le site internet www.nouveloeil-podcast.com, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.